Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
Benoît XVI a reçu ce jeudi les membres du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens réunis à l'occasion de la rassemblée plénière. Le thème choisi cette année est l'œcuménisme pour la nouvelle évangélisation. Faut-il plafonner les salaires ? C'est le thème d'une conférence organisée ce jeudi soir à Paris par Justice et Paix. Les écarts croissants entre les revenus sont de plus en plus criants en période de crise. Et puis nous parlerons du Vietnam. La commission Justice et Paix y a publié un rapport critiquant sévèrement d'un point de vue moral la société vietnamienne actuelle. Il dénonce notamment le développement de la corruption et de la violence, ainsi que la répression de la liberté d'expression et de religion. Plus de précisions dans quelques instants. Bienvenue dans ce magazine. Benoît XVI a reçu ce jeudi les membres du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens réunis à l'occasion de leur assemblée plénière. Le thème de l'assemblée choisie cette année est l'œcuménisme pour la nouvelle évangélisation, un thème qui est en résonance avec l'année de la foi, a souligné le pape. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Dans son discours, Benoît XVI a expliqué combien les pères du Concile Vatican II avaient déjà mis l'accent sur le lien très étroit entre le devoir d'évangéliser et la nécessité de dépasser les divisions qui persistent entre les chrétiens. Un authentique chemin œcuménique ne peut être poursuivi si l'on ignore la crise de la foi que traversent de vastes régions du monde, a souligné le pape, en particulier celles qui ont accueilli en premier l'évangile et où la vie chrétienne était florissante pendant des siècles. Mais nous ne pouvons non plus mettre de côté, a poursuivi Benoît XVI, les nombreux signes qui attestent d'un besoin de spiritualité. Le pape a ainsi regretté la pauvreté spirituelle de l'homme contemporain qui ne perçoit plus l'absence de Dieu de sa vie comme une privation. Les chrétiens doivent ainsi revenir à l'essentiel, a plaidé le pape, au cœur de notre foi, afin de rendre ensemble un témoignage de Dieu au monde, et ce malgré les divisions ecclésiales. Le pape, qui a souhaité que l'année de la foi puisse être l'occasion d'un progrès sur le chemin de l'unité des chrétiens, cette unité est un fruit de la foi autant qu'un moyen d'annoncer le Christ, a-t-il dit. Pour le pape, l'œcuménisme véritable exige patience, humilité et abandon à la volonté du Seigneur.
Le troisième tome de l'ouvrage signé Joseph Ratzinger Benoît XVI sur Jésus de Nazareth sera publié le 21 novembre prochain dans plusieurs pays et dans les langues de grande diffusion. Ce troisième volume est centré sur l'enfance de Jésus, un ouvrage très attendu et best-seller annoncé qui sera présenté le 20 novembre à la presse. Le pape a achevé l'écriture en allemand de cet ouvrage l'été dernier lors de son congé à Castel Gandolfo. Le premier volume de cette étude du pape sur la personne du Christ, publié en 2007, était consacré à la période allant du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration. Le deuxième, sorti en 2011, couvrait quant à lui la période de l'entrée à Jérusalem jusqu'à la résurrection. Laisser une pensée, une trace écrite de son expérience de la foi, les pèlerins qui viennent du monde entier au Vatican peuvent désormais écrire leurs pensées sur le thème que représente la foi pour vous. Ils peuvent également laisser une intention de prière personnelle dans une urne pour laquelle les fidèles assistant à une messe mensuelle dans la basilique Saint-Pierre prieront. Ce parchemin un peu particulier a été inauguré ce jeudi au siège de l'ORP, l'Opéra Romana Pellegrinaggi, place Pie XII, en présence notamment de Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, et du cardinal Farina, ancien archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'année de la foi, au cours de laquelle le pape a invité à réfléchir personnellement à ce que signifie la foi pour chacun d'entre nous. Mgr Fisichella nous en parle.
Dans le passé, on a toujours écrit les intentions de la foi et les intentions de prière. On les écrivait sur le mur, par exemple, dans les catacombes. Et aujourd'hui, on va l'écrire dans un papier qui devient aussi un instrument de prière. Mais je dirais, cela est un signe extérieur, parce que le plus important est voir une double expérience. La première, c'est-à-dire ce qui est écrit dans les cœurs des croyantes, vient participer aux autres. Et cela devient l'expérience de communion, une expérience ecclésiale. Quand on vient ici pour être pèlerin de la foi, on veut participer à la foi, ce n'est pas un fait seulement privé. Croire signifie être dans le monde, être dans la société, être dans une participation de la joie avec tout le monde. Et cela devient une expérience qui peut être participée.
Qu'allez-vous faire de ce rouleau ensuite ?
Eh bien, ensuite, cela peut devenir une expression pour participer dans une manière encore plus large, l'expérience de la foi et de prière qu'on a vécue ici à Rome. Je pense par exemple que ce qui est écrit, ce qui est le plus important, ce qui peut devenir aussi quelque chose de plus large communication, peut être publié, peut être mis dans Internet, dans des autres instruments plus encore connus et modernes.
Concrètement, ce rouleau de la foi, officiellement appelé le Face Scroll, se présente comme un support dessiné par l'architecte américaine Isabella Mancini, qui s'est inspirée de l'ambon qui supporte la Bible dans une église. Un rouleau de papier blanc est installé dessus. Une urne est également aménagée à l'intérieur avec une fente sur la façade afin d'y glisser les intentions de prière. L'escalade de violence entre Israël et la bande de Gaza inquiète. Sur le front diplomatique, les efforts se multiplient pour apaiser les tensions. L'Égypte appelle les États-Unis à intervenir immédiatement pour qu'Israël cesse ses raids contre Gaza. Dans une intervention à la télévision égyptienne, le président Mohamed Morsi a quant à lui jugé inacceptable l'attitude d'Israël. De son côté, le ministre britannique des Affaires étrangères, William Hague, accuse le Hamas d'être le principal responsable de la crise actuelle. Écoutez la réaction de Mgr Chomali, chancelier du Patriarcat latin de Jérusalem, recueilli par Thomas Chabol.
C'est un début d'une guerre. Ça nous rappelle la guerre de 3 ans sur Gaza. Il y a un cercle vicieux de violence de 2 parts. C'est vraiment difficile de dire qui a commencé, parce que depuis un certain temps, il y a tir et riposte. Mais le résultat, c'est qu'il y a beaucoup de civils qui meurent. Il y a des innocents qui sont victimes. Et on n'arrive pas à arrêter ce mécanisme de la violence.
Qu'est-ce que ça signifie pour le peu de chrétiens déjà qui restent encore dans la bande de Gaza ?
Bon, je viens de téléphoner au curé de Gaza, mais je n'ai pas eu de réponse. Je voulais vraiment lui poser quelques questions, comment ils vont, s'il y a des victimes dans notre petite communauté. Mais je pense que nos chrétiens souffrent comme les autres. Une roquette ne fait pas de différence entre un chrétien et un non-chrétien. C'est triste, nous souffrons pour tous, toutes les victimes de la violence des 2 côtés, que ce soit chrétien, musulman ou juif. Et ce que nous pouvons faire maintenant, c'est vraiment prier et condamner la violence elle-même, car elle ne porterait pas une solution au conflit israélo-palestinien. Au contraire, ça fait remonter la tension.
Que peut faire maintenant la communauté internationale ?
Je viens de savoir que les Nations Unies n'ont pas pu se mettre d'accord sur un communiqué ou un décret, une résolution en ce qui regarde Gaza. Donc il n'y a pas une attitude commune de la part des Nations Unies. Mais je pense que le plus fort qui peut vraiment influencer, c'est les États-Unis d'une part et l'Égypte d'une autre part. L'Égypte a une parole sur Hamas et les États-Unis ont une parole sur les Israéliens, de 2 côtés. Donc s'il y a un accord entre l'Égypte et les Nations Unies et les États-Unis, ça pourra débloquer la situation.
Direction maintenant le Vietnam, où la commission de l'Église catholique Justice et Paix a publié un rapport critiquant sévèrement d'un point de vue moral la société vietnamienne actuelle. Il dénonce notamment le développement de la corruption et de la violence, ainsi que la répression de la liberté d'expression et de religion dans le pays. Le rapport, destiné à la conférence épiscopale du Vietnam, constate que l'application de la loi reste souvent arbitraire. Le père Jean Maïs, ancien missionnaire au Vietnam, qui suit aujourd'hui l'actualité vietnamienne pour les missions étrangères à Paris, nous explique dans quel contexte ce rapport a été publié.
À l'heure actuelle, l'Église catholique n'a pas encore d'organe officiel, de journal officiel, sauf un petit bulletin qui s'appelle Communion, qu'on ne peut se procurer que très difficilement, et qui sort à des dates irrégulières. Donc aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au blog, grâce au site indépendant, l'Église catholique peut se faire entendre par d'autres moyens. Donc la liberté d'expression est une question sensible pour l'Église catholique. L'éducation aussi, c'est depuis très longtemps. La conférence épiscopale a fait la critique de l'éducation telle qu'elle était donnée à l'heure actuelle dans les écoles, les questions de morale, les questions de culture, etc.
On parle quand même d'un homme qui est aliéné, instrumentalisé aux causes...
Oui, la lettre se plaint que les hommes sont devenus des instruments au service d'objectifs politiques ou économiques, aliénés. Il y a d'autres aliénations que l'aliénation par l'idéologie, celle des femmes. Le texte fait allusion au mariage préparé des étrangers qui viennent de Taïwan, qui viennent surtout de Corée et qui viennent chercher une épouse dans les campagnes de Cochinchine occidentale et dans d'autres lieux très pauvres.
Pour parler de l'étranger, il y a aussi la question des relations avec Pékin, des liens amicaux qui seraient aux dépens des Vietnamiens. C'est assez étonnant parce qu'on a plutôt l'impression qu'en ce moment, ça ne va pas très fort entre Pékin et Hanoï.
C'est assez caché. Vous savez que l'an dernier, il y a eu des manifestations anti-chinoises pendant plusieurs mois, aussi bien à Hanoï qu'à Saigon. Des manifestations assez spontanées, bien que tolérées par le gouvernement. Les réclamations de la commission de justice et paix portent sur plusieurs comportements de la Chine vis-à-vis du Vietnam. C'est d'abord les questions du territoire, surtout le territoire maritime. La Chine aussi envahit le Vietnam avec ses produits commerciaux à des prix qui empêchent les produits vietnamiens de se vendre. Donc il y a dans toute la population une inquiétude vis-à-vis de l'expansion chinoise aujourd'hui. Donc c'est de cela que se fait l'écho, la commission justice et paix.
Puis il y a aussi la dénonciation de la répression des personnes qui s'opposent à l'influence chinoise.
Oui, la position du gouvernement vietnamien est assez ambiguë. Il y a dans un certain nombre de cas des protestations officielles quand il y a par exemple des bateaux chinois qui empêchent les pêcheurs vietnamiens d'aller au large ou bien les coulent. Il y a des protestations officielles aussi sur les fameux deux archipels qui sont contestés. Mais après cela, comme le dit la lettre de justice et paix, on apprend qu'il y a des pactes, qu'il y a des engagements des deux pays l'un envers l'autre sans que la question territoriale, les questions contestées soient traitées.
C'est très étonnant, elle est quand même très politique, cette lettre. Évidemment, on sent qu'il y a des préoccupations qui touchent l'Église, mais il y a aussi plus largement des critiques, la corruption, le recours à des voyous pour rétablir l'ordre.
Là... Oui, parce que ce recours à des voyous, c'est ce que plusieurs communautés catholiques, y compris donc l'évêque de Vignes, qui est l'auteur ou l'inspirateur de cette lettre, ont eu à subir ces attaques de voyous. C'est une pratique qui a été utilisée dans le conflit qu'il y a eu avec la paroisse de Taïa, utilisée par les organes de la sécurité.
Le procès de la jeune Rimsha Masih touche à sa fin au Pakistan. Arrêtée le 16 août dernier dans la banlieue d'Islamabad, cette jeune chrétienne handicapée mentale avait été accusée de blasphème pour avoir brûlé des pages du Coran, puis libérée sous caution parce que les preuves à sa charge avaient été construites de toutes pièces. La haute cour d'Islamabad a tenu mercredi la dernière audience de la phase du débat, recevant un mémoire écrit portant les conclusions des deux parties en cause. Les avocats de Rimsha ont demandé l'annulation de la plainte et donc l'acquittement, réaffirmant que la jeune fille a été mise en cause injustement par l'imam Khalid Jadoun Chisti. Celui-ci avait été incarcéré début septembre pour complot après avoir fabriqué des pièces à charge pour accuser l'adolescente. Cette affaire très médiatisée ne présage pas en revanche d'une éventuelle remise en question de la loi contre le blasphème au Pakistan, une loi discriminatoire qui vise souvent les minorités que de nombreuses voix dans le pays comme à l'extérieur ont demandé d'abroger. Faut-il plafonner les salaires? C'est le thème d'une conférence organisée ce jeudi soir à Paris par Justice et Paix en présence de sœurs Cécile Renoir et Gaëlle Giraud, auteurs de l'ouvrage « Le facteur 12, pourquoi il faut plafonner les revenus » aux éditions Carnet Nord. Depuis l'éclatement de la crise financière en 2008, cette idée a fait son chemin, d'autant que ces 20 dernières années, les écarts entre hauts et bas salaires n'ont cessé de se creuser. Ces inégalités doivent être appréhendées en termes économiques, sociaux, mais aussi morales et écologiques. C'est un débat qui transcende le clivage droite-gauche et qui mobilise les Français. Ils se déclarent dans les sondages largement favorables à une réduction de cet écart. Mais si l'on en croit certains libéraux du XVIIIe siècle, tels Adam Smith, justice parfaite et prospérité sont antagonistes. Quel est aujourd'hui l'équilibre à trouver? Comment peut-on décrire la situation française? Élément de réponse avec Denis Viennot, secrétaire général de Justice et Paix France, au micro d'Hélène Destombes.
La situation, elle est un peu paradoxale d'abord. On a une espèce de double inégalité invraisemblable aujourd'hui et acceptée. Une inégalité de revenus et une inégalité de patrimoine. Alors pour prendre les extrêmes dans un pays comme la France, on s'aperçoit que les trois patrons les plus riches de France, ils reçoivent à peu près 20 000 SMIC. Ça veut strictement plus rien dire. Ou bien que les 11 Français les plus riches ont une fortune égale aux 20 millions les plus pauvres. Donc on est dans des situations qui sont des situations ridicules, évidemment, sur le plan éthique, et qui sont en plus créées par des facteurs d'injustice très scandaleux que les États commencent d'ailleurs à réaliser à propos, par exemple, des paradis fiscaux ou des mécanismes d'évasion fiscale des multinationales.
Plafonner les rémunérations, mettre en place une fourchette réduisant les écarts, certains économistes comme Cécile Renoir et Gaëlle Giraud proposent comme solution le facteur 12. De quoi oui. S'agit-il?
Leur idée, finalement, c'est de dire limitons l'écart des rémunérations totales, des revenus, de 1 à 12. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris 12? Ils ont pris 12 parce que c'est en fait un chiffre qu'on retrouve dans la fonction publique française. C'est une idée qui a été émise d'abord par Faber, le vice-président de Danone. Diminuer les salaires les plus importants dans une entreprise, comme Danone, pour redistribuer les sommes économisées aux gens les moins rémunérés. Alors on dit toujours c'est pas vrai, ça ne résout pas le problème. Quand on fait un calcul rapide, on s'aperçoit que si en France on prélevait 10% des revenus aux 10% les plus riches, ça ne changerait absolument pas leur rythme de vie, ça permettrait de les verser aux 10% les plus pauvres. Et à ce moment-là, par exemple, le revenu des gens les plus pauvres en France passerait de 640 à peu près 1050 euros. Ça change considérablement la vie des gens.
Mais plafonner les revenus, réduire les écarts de salaire, est-ce que ce n'est pas prendre le risque de voir fuir un grand nombre de compétences à l'étranger, de freiner l'innovation et l'initiative?
Ça, c'est un débat classique qu'on a eu en France, par exemple à propos de l'imposition très fortement élevée des gens les plus riches. En fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai et qu'il n'y a pas une vraie mobilité des grands entrepreneurs. C'est une fausse idée. Et puis, on peut aussi dire que si au niveau européen, tous les pays faisaient à peu près la même chose, finalement, je ne vois pas pourquoi on irait s'installer en Belgique alors que ce serait la même chose qu'en France.
L'heure est-elle venue aujourd'hui de passer du débat à l'application? En d'autres termes, est-ce que finalement, la crise économique et financière a comme aspect positif de repenser tout le fonctionnement du système et donc la mise en place de nouveaux outils?
Il y a sans doute à mener une réflexion sur le revenu minimum en France, qui est d'un montant de 450 euros pour une personne toute seule. Je défie toute personne de vivre en France avec 450 euros. Donc ça pose à la fois la question de la solidarité dans une société et la façon dont on peut organiser le partage et la façon dont aujourd'hui on assure une vie décente minimale à toute personne, non seulement en France, mais dans le monde entier.
C'est un débat qui mobilise, qui intéresse les Français et qui dépasse le clivage droite-gauche.
À mon avis, oui, parce que dans ce type de débat qui sont à entrées multiples, il n'y a pas que l'entrée économique, mais il y a par exemple l'entrée éthique qui amène à ce moment-là à regarder comment les uns et les autres s'inscrivent dans une citoyenneté co-responsable d'une certaine façon.
Et c'est avec cet entretien réalisé avec Denis Viennot, secrétaire général de Justice et Paix France, que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à le retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va.